Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot.
François Pinet.
Il est presque 16h sur RMC, ravi de vous retrouver. On est avec Kevin Diaz depuis le début de cet après-midi. On a vécu ensemble les premiers qualifiés pour les huitièmes de finale de Coupe de France. Toulouse s'est imposé à Cannes 1-0. Brest s'est qualifié en battant Bordeaux 3-0. Versailles, club de N2, a battu la Roche-Vendée 4-0. Et puis Nantes s'est qualifié également pour les huitièmes en battant Vitré 2-0. À partir de 16h, dans quelques minutes maintenant, Montpellier-Strasbourg à la Mosson, Bastia qui reçoit Clermont, Nancy face à Rennes et Bergerac face à Créteil. On suivra également du rugby avec le coup d'envoi à 16h du match entre l'UBB, le leader du top 14, contre Biarritz. C'est la 14e journée de championnat. Et puis juste un mot ici, Kevin, avec la défaite du Real Madrid, défaite surprise en Liga, battu 1-0 par Retafe, figure-toi. 1-0 pour Retafe face au Real dans cette 19e journée de Liga.
Ouais, surprenant. Après, je ne sais pas s'ils avaient des cas de Covid ou pas, mais en tout cas, c'est eux qui étaient si bien dans cette fin d'année. C'est, ouais. Ça me surprend.
Défaite surprise pour débuter l'année pour le Real Madrid. La Coupe de France, on y va avec les coups d'envoi à Montpellier, à la Mosson, Julien Landry, Montpellier, Strasbourg.
Parti à l'instant, coup d'envoi donné par les Montpellierains, par le capitaine TJ Savagnier, évidemment qu'on va suivre avec une affection particulière, Kevin, parce que voilà, c'est un joueur qu'on adore
bien sûr.
Et qui donne déjà un ballon merveilleux pour Eli Wahi. Et attention, parce qu'il s'est fait un petit peu sécher par Djikou, qui a laissé traîner un petit peu la jambe sur la cheville de TJ Savagnier, qui a fait 6 mois. Bon, il sort de 1 an déjà très très fort, mais là il vient de faire 6 mois quand même exceptionnel avec Montpellier. Et ça va être le leader encore une fois des Montpellierains. Une partie depuis 1 minute, 0-0.
Est-ce que c'est parti à Bastia, au stade Armand Césari à Bastia, Julien Pernicki?
Eh oui, François Pinet, c'est parti ici du côté de Fouriane, pas de chez Aloud déjà, puisque c'est la bonne période pour le dire. Donc 0-0 toujours entre Bastia et Clermont au bout d'une minute de jeu. Des équipes diminuées pour certaines raisons. Côté Clermont, c'est la canne avec notamment l'absence de Mohamed Bayo en pointe de l'attaque, le buteur clermontois. Et puis beaucoup d'absents, notamment à cause du Covid. Côté Bastia, quasiment toute la défense à refaire. Donc les Bastiais qui sont un peu handicapés pour ce défi face aux Clermontois, mais qui vont vendre cher leur peau. Ça c'est sûr, François Pinet, toujours 0-0 entre Bastia et Clermont.
Julien Pernicci, bien sûr, pas Pernicki, moi il faut que j'apprenne le corps.
C'est gentil.
À tout de suite, Julien. Un autre Julien, décidément. Julien Richard, faudra pas vous mélanger les pinceaux. Hein. Bergerac, Créteil. Ouais, c'est une génération de Julien, c'est comme ça. Bergerac, ouais. Club de N2 face à Créteil.
Allez, c'est parti depuis 1 minute 30 avec pour l'instant 0-0, mais la première occasion peut-être pour Créteil sur la pelouse bergeracoise. Un coup franc dangereux sur une faute sur Alexis Arojo du capitaine bergeracois, Damien Fachan, qui va être tiré. Alors il a 30 mètres quand même, mais il y a du monde dans la surface de réparation. Ça va plonger, c'est au deuxième poteau, attention, et ça a failli être intercepté et touché par un Jandy Dembélé, pardon, l'attaquant cristolien, mais c'est finalement un dégagement pour le gardien bergeracois Pierre Laborde. Une division des seulement, hein. Oui. Pierre entre ces deux équipes, National 2 pour Bergerac, National pour Créteil.
Le François, stade Marcel Pierre. Picot, oui, je ne sais pas, on va l'appeler Julien.
Il y a un problème avec les prénoms aujourd'hui.
Julien Jamin est un stade Marcel Picot, non, Valentin Jamin, non, Sirène. Salut Valentin.
Salut messieurs, salut à toutes et à tous. 3 minutes de jeu, 0-0 à Marcel Picot entre Nancy, dernier de Ligue 2, et Rennes, 4e de Ligue 1. Le jeu qui est arrêté là, parce que c'est Santa Maria qui, me semble-t-il, est au sol. Rennes, vous l'avez dit, une équipe diminuée pour différentes raisons. Des joueurs sont partis à la canne, sous les manas Traoré, Aguerd, Birger Meling est blessé, mais le club a été aussi bien touché par le coronavirus. Alors peu de communication cette semaine sur le nombre de cas et les joueurs précisément touchés, mais on peut vous dire qu'Alfred Gomis et Salin, les deux gardiens, ne sont pas dans le groupe. Omari, Hugo Choupou, Bourigeau, Terrier et Tchouana non plus. Donc voilà, a priori, les joueurs touchés par le coronavirus, ou en tout cas une partie des joueurs touchés, ce qui fait que on a un troisième gardien dans les buts cet après-midi, et c'est sa première avec le Stade Rennais, le Turc Alemdar, qui est arrivé cet été de Kayserispor, qui a seulement 19 ans, très prometteur, et qui occupe donc la cage. Donc voilà, équipe quand même compétitive sur le terrain, avec notamment Laborde, Guirassy devant, mais sur le banc, on a beaucoup de jeunes, 16, 17 ou encore 18 ans pour cette équipe de Rennes face à Nancy, avec Benoît Pérez Pedretti, hein, toujours sur le banc. On cherche éventuellement un remplaçant, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé du côté de Nancy, puisqu'il est intérimaire, Pedretti. 4 minutes de jeu, 0-0 entre Nancy et Rennes.
Ok, Valentin. Le rugby, c'est parti entre l'UBB et Biarritz, Romain Asselin. Salut, Romain.
Salut les gars, c'est parti depuis 1 minute et 40 secondes ici à Chabon-Delmas. Match déséquilibré, hein, tu le disais François, entre le leader du top 14 invaincu à la maison et la lanterne rouge Biarritz, qui va avoir aussi les yeux tournés déjà vers la suite du calendrier. La réception de l'USAP, 13e du top 14, ce sera samedi prochain. Déplacement à Brive, le 12e à la fin du mois. Un match déséquilibré et on attend peut-être une victoire à 5 points des Girondins qui n'ont plus joué depuis le 11 décembre et une défaite ici même à Chabon. Mais c'était en Coupe d'Europe face à Leicester, peut-être la meilleure équipe d'Europe depuis le début de la saison. 0-0, 2 minutes de jeu ici à Chabon-Delmas.
C'est parti fort à Montpellier, à la Mosson. Montpellier, Strasbourg, Julien Landry.
Ouais, grosse entame des Strasbourgeois qui sont en train de faire le siège de la cage de Dimitri Berthaud avec déjà 3 grosses situations. La frappe à l'instant de Gamero, il y a eu cette tête de Diallo qui a été lobée alors qu'il était seul au second poteau et que Dimitri Berthaud semblait battu, et que là les Strasbourgeois vont récupérer déjà le deuxième corner. Mais oui, très grosse entame des hommes de Julien Stéphane, qui, on vous rappelle, n'a pas fait le déplacement aujourd'hui. Mais les Montpellierains, ouais, sont un petit peu noyés par les assauts pour le moment des Alsaciens, avec le nouveau corner de Dimitri Liénard. C'est frappé vers la tête de Sissoko et le ballon qui va pas sortir en 6 mètres, qui va sauver par Djikou, qui le remet derrière vers Gilbert. La fin de centre de Gilbert qui centre fort au point de pénalty, et c'est Valère Germain qui est là pour dégager son camp. Mais le ballon qui va revenir, et cette fois-ci c'est Mamadou Sakho qui va imposer son physique. Mais les Montpellierains ont beaucoup beaucoup de mal à se dégager, et attention à cette tête en retrait de Mamadou Sakho qui a failli prendre par surprise Dimitri Berthaud, qui était bien vigilant et qui a relancé rapidement. Mais grosse entame des Strasbourgeois, mais toujours 0-0 après 5 minutes de jeu.
C'est rare quand même de voir les trois attaquants alignés que sont Gamero, Diallo et Ajorque à la pointe de cette attaque.
Ouais, alors de ce qu'on nous avait expliqué, c'est que Gamero jouait juste derrière Diallo et
Ajorque. Oui, mais quand même.
Ouais, mais c'est vrai que ça fait quand même les trois ensemble sur la pelouse. C'est une grosse force offensive pour les Strasbourgeois, clairement, Kevin. Et les Montpellierens, ouais, il y a quasiment que deux joueurs au milieu de terrain pour récupérer, parce qu'ils sont toujours à 5 en défense avec Liénard en piston gauche et Fila en piston droit. Mais oui, c'est une équipe très offensive alignée par les Strasbourgeois cet après-midi. Attention, le ballon de réparation pour les Montpellierens avec Florent Mollet. Florent Mollet qui sort vers Valère Germain, et le bon retour défensif de Lucas Perrin. Mais oui, pour en venir, c'est une grosse équipe, grosse force offensive en tout cas des Strasbourgeois cet après-midi sur la pelouse de la Mosson. Toujours 0-0, mais c'est parti très fort entre ces deux équipes, avec donc une domination déjà pour les Alsaciens, avec Diallo encore une fois qui récupère le ballon contre deux Montpellier. Diallo face à Sakho qui va aller défier Mamadou Sakho, le bon retour de Chontard qui va s'interposer. Mais attention à Diallo qui a failli récupérer, et c'est Berthaud finalement qui va prendre le ballon dans ses bras. Mais c'est parti très très fort ici à la Mosson, et après 7 minutes de jeu, toujours 0-0.
Allez, le Stade Armand Cesari, on va retrouver Julien Pernici pour Bastia Clermont. Est-ce que le club de Ligue 2 a le ballon, domine ce début de rencontre ou non?
C'est plutôt équilibré entre les deux équipes, toujours 0-0 au bout de 6 minutes 30 de jeu. Il faut dire que les Bastiais n'évoluent pas de leur schéma habituel, ils sont revenus à un schéma à 4 défenseurs. Faute de mieux, parce qu'il y a beaucoup de défenseurs qui sont sur le flanc, soit par rapport à la CAN, soit par rapport à la Covid. Les Guides, le Cardinal, Palin qui est donc parti à la CAN avec le Gabon. Le milieu aussi, c'est un peu expérimental, avec des joueurs plutôt offensifs qui sont devant la défense. Faute de mieux, là encore. Mais pour le moment, ils essayent malgré tout de faire un dragée haute face aux joueurs clermontois. Ça ne va pas être facile pour cette équipe bastiaise, mais elle va vraiment chercher sa peau, parce que c'est une équipe de coupe. Elle a gagné la coupe en 1981, et puis il y a un entraîneur de coupe sur le banc, Régis Brouard. Et donc, toujours 0-0 ici du côté de Fourriagne entre Bastia et Clermont. On va quand même suivre cette attaque clermontoise avec ce centre dans la surface qui ne trouve personne, si ce n'est Amin Talal. Donc 0-0 pour en tout cas entre Bastia et Clermont pour le moment, 7 minutes de jeu.
Kevin, des Bastia qui sont 18e de Ligue 2, hein, qui n'ont pas rencontré d'équipe de Ligue 1 jusque-là. Hein. Le tour précédent, c'était contre Haut-Lyonnais. Là, ça va être intéressant de les voir justement contre une équipe d'un niveau supérieur.
Ouais, intéressant. C'est dommage quand même, comme disait Julien, qu'ils ont pas mal d'absents, notamment sur le plan défensif. Alors, il parlait de Régis Brouard. Je pense qu'il signerait plutôt pour un maintien en Ligue 2 que pour un parcours en Coupe de France.
C'est vrai. Mais en tout cas, Régis Brouard donne de l'importance à la Coupe. Et il a tout à fait raison, parce que la Coupe, ça peut aussi amener une dynamique à une équipe qui est 18e, certes, mais qui sur le terrain a montré de belles choses et qui, avec un recrutement, pourrait peut-être aller chercher un maintien tranquille. Donc, toujours 0-0 entre Bastia et Clermont.
Et du côté de Clermont, il faudra se faire sans Bayo, hein, pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Et justement, c'est un premier test aussi pour jouer sans l'attaquant. Hein.
ça aussi, hein, ça va être comme tu dis un énorme test. Ça va être compliqué parce qu'il les a sortis de pas mal de situations, notamment au début de saison où ils arrivaient à briller ensemble. Mais ouais. ça va leur manquer. Maintenant, ils vont s'habituer parce que peut-être qu'il va partir définitivement à la fin de ce mercato. Donc.
Et à la pointe de l'attaque aujourd'hui, côté Clermont, c'est Pierre Rivamel qui jusque-là n'a marqué aucun but cette saison.
C'est pour ça. Gros test pour aussi l'attaque clermontoise. Des tests aussi à Rennes, puisqu'il y a pas mal d'absents, on nous le disait avec Valentin Jamin. Rennes qui se déplace à Nancy au stade Marcel Picot, Valentin.
9 minutes de jeu, toujours 0-0, match plutôt équilibré pour le moment. Les Nancéens bien entrés dans cette partie, et en effet des tests notamment derrière François, parce que Bruno Genesio n'a plus convoqué que 3 défenseurs dans l'ensemble de son groupe, et Baptiste Santamaria, l'habituel milieu de terrain, dépanne d'ailleurs en charnière, assez à l'aise dans la relance, mais voilà, ils sont quand même un point en difficulté. Mais le match est vraiment équilibré face à Nancy, dernier de Ligue 2, qui quand même, à l'image de Bastia et de ce que disait Kevin, ne fait pas de la coupe évidemment une priorité, hein, ça va être le maintien la priorité. Ils sont à 8 points du barrage, qui est d'ailleurs Bastia, et d'ailleurs Benoît Pedretti a fait un petit peu tourner, notamment dans la cage avec Baptiste Valette qui est l'habituel remplaçant. Donc voilà, on va compter sur le cœur notamment du côté de Nancy, et peut-être aussi sur la fin de match, parce que je vous disais, hein, le banc de Rennes est léger. Alors non, ils ont du talent, c'est jeune, mais ils ne sont pas habitués forcément au haut niveau, et donc ça pourrait jouer en fin de match. Attention à Gaëtan Laborde dans la surface, la passe en retrait vers Lovro-Mayer, il est contré, ballon qui reste dans la surface de réparation avec maintenant Flavien Thé à l'entrée de cette surface qui va écarter côté gauche vers Adrien Truffert. Sa passe, elle est un petit peu trop longue, mais première situation pour les Rennais dans cette partie face à Nancy. 10 minutes de jeu, 0-0.
Malgré les absents, il y a quand même du beau monde dans cette équipe rennaise, hein, Kevin. Quand on voit l'équipe alignée, Laborde, Doku, Mayer qui est titulaire, Flavien Thé bien sûr, Guirassy en pointe.
Bah, c'est la force, hein, du Stade Rennais depuis le début de cette saison. C'est l'effectif qui a réussi à assembler Florian Maurice. On connaît ses talents de recruteur, et en plus, hein, on n'en a pas eu le temps parce qu'on va les découvrir, mais le centre de formation Rennais, qui est un des meilleurs français, si ce n'est le meilleur en ce moment, qui arrive toujours à sortir des pépites, donc on les verra peut-être en seconde mi-temps.
Oui. On va aller voir du côté de Bergerac ce qui se passe pour Bergerac, qui avait réalisé l'exploit, Julien Richard, lors du tour précédent, en sortant une Ligue 1, qui affronte Créteil. Ouais.
Et 0-0, 10 minutes de jeu, c'était la première fois de son histoire, hein, pour le Bergerac Périgord FC, qui sortait un club de Ligue 1. Alors c'est pas la première fois, c'est la quatrième fois qu'ils arrivent à ce stade de la compétition, les 16e de finale. Ils ont même été jusqu'en 8e de finale, et ils s'étaient fait sortir dans les arrêts de jeu, c'était la saison 2016-2017, par le LOSC. Mais évidemment, ils ont envie de continuer cette aventure, et c'est une dynamique très très intéressante. T'en parlais un petit peu, Kevin, tout à l'heure, mais pour cette équipe bergeracoise qui est en tête de sa poule de National 2, qui reste sur 14 matchs sans défaite, meilleure attaque, meilleure défense de son championnat, qui n'a pas encaissé le moindre but sur ses 6 matchs de Coupe de France, puisqu'ils avaient fait 0-0, hein, contre Metz. C'était une victoire au tir au but face à ce club de Ligue 1. Et en face, c'est pas vraiment la même dynamique, puisque Créteil se bat dans son championnat national. Ils sont en TP Ultime, 16e du National. Ah oui, c'est un peu plus compliqué cette saison pour Créteil, qui en plus aurait dû être qui a été repêché par la Fédé au dernier moment et qui n'avait pas un effectif prévu pour le National.
Je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui restent amateurs, surtout au niveau National 3, un peu moins au niveau National 2, mais en tout cas pour Bergerac, je ne veux pas entendre parler d'amateurisme, hein. Ce sont des professionnels qui certes n'ont pas le statut en tant que club ou en termes de structure, mais qui en tout cas sont des joueurs qui ne font que du football et qui ont pour la plupart des parcours c'est du football professionnel, peut-être pas très bien payé.
0-0 partout, en tout cas dans ces 4 matchs qui ont débuté à 16h. On revient dans un instant. 0-0 également entre l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles, et Biarritz en top 14. On revient dans un instant avec Kevin Diaz. Restez bien avec nous, à tout de suite.
RMC Intégral Foot,
François Pinet.
16h14 sur RMC, ravi de vous retrouver pour la suite de cette Intégral Foot spéciale Coupe de France. On suit tous les matchs en direct et en intégralité depuis cet après-midi. Je vous rappelle que Toulouse, Brest, Nantes et Versailles sont les premiers qualifiés pour les 8e de finale. On est toujours avec Kevin Diaz. Tiens Kevin, comme c'est la nouvelle année, comme je suis sympa, tu peux me dire où tu veux aller, Montpellier, Bastia, Nancy ou Bergerac?
Bah écoute, allons à Bergerac.
Bergerac Créteil, le club de National 2 contre le club de National, Julien Richard.
Allez, le quart d'heure de jeu, peut-être le ballon dans la surface de réparation pour Samir Bakir, l'attaquant bergeracois qui s'est heurté là. Rifi Mandanda, le gardien cristolien,
qui se plaint de la main. Alors c'était dans l'action, il n'y avait pas de mauvais geste. 0-0, le quart d'heure de jeu ici au stade Gaston Simounet. Et ça me permet de vous parler de la pelouse de ce stade qui est habituellement le stade du club de rugby de l'US Bergerac, et qui avait fortement déplu à Fred Antonetti, l'entraîneur de Metz, qui avait déclaré après le match que c'était la pire pelouse qu'il avait vue en 30 ans de carrière. Il faut dire qu'il avait eu un match 3 jours avant de rugby. Là ça va mieux, hein. Elle a eu un peu le temps de se reposer, c'est pas idéal, mais c'est quand même moins pire, on va dire, que lors du match face à Metz.
Et messieurs, Riff et Mandanda, donc le frère de Steve, que j'ai entraîné quand il était jeune et que j'étais aussi un très très jeune entraîneur et qui jouait à Saint-Maur dans le 94.
Ah oui, d'accord.
Ça, c'est une anecdote.
Tu l'as entraîné, ouais. Donc on va voir si
Benjamin à l'époque.
On va voir si tu l'as bien entraîné.
Ouais, écoute, moi, il était petit.
Pour l'instant,
déjà très bon. Il était déjà très bon.
Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Tu vois la patte de Kevin.
Il n'a pas eu grand chose à faire. Évidemment. Évidemment, voilà, pas de Kevin. Voilà, il était plutôt tranquille pour le moment. Il y a eu une frappe, mais elle n'était pas cadrée du côté Bergeracois. 16 minutes de jeu ici à Bergerac. Donc 0-0 entre les Bergeracois et les Cristoliens.
Le duel de Ligue 1 entre Montpellier et Strasbourg à la Mosson, Julien Landry.
16 minutes, 0-0. Match plaisant, hein, pour le moment, entre les deux formations. Légère domination, malgré tout, strasbourgeoise, qui ont eu les situation, mais les Montpellierains sont en train de remettre un petit peu le pied sur le ballon, avec notamment Jordan Ferry, dont on parle pas beaucoup depuis le début de la saison, mais qui est quand même un pion essentiel de cette équipe-là, parce qu'il soulage TJ Savanier de beaucoup de tâches défensives, de toute la première organisation, finalement, des premières relances. C'est lui qui est un petit peu à l'origine de tout, et très précieux. Et c'est encore lui qui a le ballon, qui trouve Florent Mollet, qui donne à Valère Germain, entraîneur de cette réparation, qui s'appuie sur Souquet, qui redonne à Eliwai, qui arrive à se retourner. Eliwai, la frappe et la parade magnifique de Mats Sels, mais le très beau geste encore une fois d'Eli. Eliwai, on le voit depuis quelques semaines, il a quand même des grandes qualités d'attaquant, parce que là, le petit contrôle orienté pour éliminer son vis-à-vis, mais attention derrière, c'est parti, et Strasbourg en position de hors-jeu. Mais oui, il y a des qualités chez ce jeune garçon, Kevin Eliwai, le contrôle orienté pour éliminer son adversaire, derrière la frappe, mais la magnifique parade de Mats Sels, toujours 0-0, 17 minutes à la Mosson.
Et comme tu dis, Julien, il y a beaucoup de qualités. C'est toi qui nous disais d'ailleurs, hein, il y a quelques semaines, je l'ai bien noté, que c'était un des meilleurs buteurs peut-être de l'histoire de cette équipe, de ce club de Montpellier, enfin en équipe de jeunes. Ouais. Il avait enchaîné but sur but. Et c'est vrai qu'on voit, on voit de toute façon, que ce soit chez les jeunes ou chez les adultes, ça c'est quelque chose. Tu l'as ou tu l'as pas. Quand t'es un buteur, ça trompe pas.
Belle sortie de Sels aussi, hein, il faut le dire. Hein. Il sort très très vite dans les pieds de Wai. Hein.
Non mais Mats Sels, c'est un des meilleurs gardiens depuis le début de saison. Mmh. On faisait ça cet hiver là avec l'After, pour voir quels étaient peut-être les meilleurs gardiens, et il en fait clairement partie, parce que depuis qu'il est revenu après une petite phase d'adaptation, il est vraiment décisif pour cette équipe.
Comment ça se passe pour Nancy face à Rennes, Valentin Jamin?
18 minutes de jeu, 0-0, les Nancéens qui subissent globalement et qui vont subir un bon coup franc obtenu par Lorenz Assignon après encore un bon travail de Lovro Magère, qui avait quasiment perdu le ballon, qui allait le récupérer dans le coin là avec la semelle et la petite passe derrière la jambe d'appui derrière Assignon a obtenu la faute. On est vraiment à l'angle de la surface de réparation, quasiment collé à la ligne des 6 mètres. C'est parti pour Magère, tiré second poteau, la reprise de la tête au second poteau. Est-ce que c'était Flavien Thé? En tout cas, c'était boxé sur sa ligne par Baptiste Valette. C'est pas terminé, Jérémy Lecou côté gauche dans la surface de réparation, et ce sera 1-6 mètres, alors que ouais, on semble un petit peu des fois agacé côté Rennais. Alors non, c'est pas parce que le ballon est potentiellement rentré, c'est parce qu'il y avait a priori peut-être corner, mais en effet c'était très juste ce sauvetage de Baptiste Valette, mais le ballon qui n'a pas franchi la ligne sur cette reprise de la tête au second poteau. C'est la plus grosse occasion dans cette partie aller pour Rennes après 20 minutes de jeu, mais toujours 0-0 entre Nancy et le Stade Rennais.
C'est bien Pedretti qui est sur le banc, alors qu'il a fait part de ses intentions de quitter le club, enfin de quitter ses fonctions.
Effectivement, c'est Benoît Pedretti effectivement, ouais, qui est sur le banc, hein. On rappelle qu'il a remplacé en tant qu'intérimaire Daniel Stindel, qui lui avait débuté la saison sur le banc de Nancy. Ça n'a pas fonctionné, Nancy est dernier, donc Pedretti a effectué quelques piges, lui qui s'occupe d'habitude de la réserve. Et en fait il a dit au bout d'un moment qu'il ne voulait plus occuper cette fonction. D'ailleurs le président Gauthier Ganaille a dit que lui aurait bien aimé que Benoît Pedretti poursuive sa mission. Bref, ouais, Pedretti ne veut plus, on se penche sur un nouvel entraîneur. On parle pourquoi pas d'Albert Cartier, l'ancien entraîneur notamment de Nancy, de Sochaux, qui était à Bastia-Borgo jusqu'en novembre. Apparemment des négociations ont débuté, mais il n'a pas signé en tout cas Albert Cartier, donc pour l'instant c'est toujours Benoît Pedretti sur le banc nancéen. 21 minutes de jeu, 0-0.
C'est quand même une situation très particulière, hein, ouais, François, ouais. Et Valentin, parce que qu'un entraîneur Valentin comme Benoît Pedretti qui oui, je l'ai dit Valentin qu'un entraîneur comme
il y a un petit défi. déjà marqué contre Angers, une frappe lointaine, et cette fois-ci sur cette belle transversale de Florent Mollet, il contrôle à l'extérieur de la surface de réparation, il n'est pas attaqué par les Strasbourgeois, et on sait que l'international serbe, il a du feu dans les jambes quand il arrive à cadrer ses frappes, et cette frappe elle est puissante, Matsels n'y peut rien, mais voilà encore une fois c'est Jordan Ferry qui a donné ce très bon ballon à Mia Loristic à 20 mètres, la frappe du pied gauche elle vient le long du poteau, poteau rentre pour Ristic, vraie qualité de frappe pour l'international serbe, et ça fait 1-0 pour les Montpellier.
Il est magnifique ce but, il l'a déjà marqué hein, à la fin de l'année 2021 en championnat, une belle frappe comme ça aussi, très pure, mais celle-là elle est surprenante parce que normalement un gaucher à l'entrée de la surface de réparation, j'y connais quelque chose, on tente plutôt de croiser la frappe, et là il a tenté de frapper fort au premier poteau, il a surpris Matsels. Franchement, il peut rien faire le gardien parce qu'en plus il y a poteau rentrant. Là, il est masqué par deux de ses partenaires. Elle est contrée en plus. Je crois qu'elle est contrée par le genou du premier défenseur. Ça a été très très vite et derrière ça accélère, ça fait poteau rentrant. C'est imparable, mais c'est un très très beau but.
1-0 pour Montpellier, face à
Strasbourg. Il a une vraie qualité de frappe, Ristich. On le voyait souvent à l'entraînement l'année dernière. Il frappe plus fort qu'Andy Delors, qui pour le coup frappe très très fort. Mais lui, aux entraînements, il envoie de ses pralines Mialo Ristich. Et d'ailleurs, Olivier Dalloglio en début de saison lui disait qu'il fallait qu'il tente plus sa chance parce que voilà, il sentait bien qu'il avait cette qualité pour pouvoir être décisif. Il avait fait contre Angers juste avant la trêve et il le refait pour le premier match de 2022. Très beau but et ça permet à Montpellier de mener 1-0 après 20 minutes de jeu.
Qu'est-ce que ça donne sur les cotes, Johan ?
C'est complètement déséquilibré maintenant. 1,50 la victoire de Montpellier, 3,30 le match nul, 4,20 la victoire de Strasbourg.
Et je sais que Kevin va rester sur son nul avec les deux équipes qui marquent. Je le connais par cœur, mon Kevin.
Exactement, exactement. Je ne change pas d'un poil.
J'en étais sûr, la constante. Juste avant de retrouver Julien Pernichi pour Bastia Clermont, un détour par le rugby puisque le score a bougé entre l'UBB et Biarritz, Romain Asselin.
3 partout après 19 minutes de jeu, ce sont les Biarrots qui avaient ouvert le score au quart d'heure de jeu avec une pénalité d'Ilian Perrault face au Perche. Réponse à l'instant de François Trindu qui avait raté sa première tentative en tout début de match et cette fois il a bien réglé la mire. 3 partout, mais attention, hein, grosse entame du Biarritz Olympique, lanterne rouge de ce top 14 face à une équipe de l'Union Bordeaux-Beg méconnaissable, hein, pour l'instant le leader qui a déjà commis 4 fautes en moins d'un quart d'heure. Là on joue la 20e, ils ont un petit peu réglé leur indiscipline, mais franchement ils sont sur le reculoir et ils avaient été battus d'ailleurs à Aguilera par cette équipe du Biarritz Olympique en tout début de saison, c'était lors de la première journée. Christophe Furios, le manager de l'UBB, avait dit on avait pris une leçon de courage, de couille et de rugby. Ah. Et ben c'est ce que sont en train de prendre les Girondins pour l'instant.
Ah ouais, tu vois des leçons comme ça, d'accord. Ok. Merci beaucoup Romain. Bastia contre Clermont, c'est Julien Pernici qui suit cette rencontre pour nous.
Toujours 0-0 entre Bastia et Clermont au bout de 22 minutes de jeu, mais la domination elle est clairement bastiaise depuis la 8e, 9e minute de jeu. Il y a eu 3 ou 4 occasions assez importantes de la part des hommes de Régis Brouard qui ont beaucoup de spontanéité dans le jeu, cette annonté face à des Clermontois qui sont un peu timorés parfois, et ça montre en tout cas que Sébastien a envie d'aller très vite. Benjamin Santé est en surface, oh la volée de Saadi qui est repoussée et le tir derrière de Salamange qui suit, ça passe au-dessus. Mais oui, les Bastilles mettent beaucoup de pression sur le but clermontois depuis la 8e, 9e minute de jeu. En face, les joueurs de Pascal Gastien ne vont pas beaucoup vers le but Bastier. Et pour l'instant, effectivement, c'est très intéressant ce que font les joueurs du Sporting Club de Bastia en étant diminués, en n'étant pas dans la composition habituelle. Il y a beaucoup de spontanéité, notamment du côté de Santé, de Salamange, qui font beaucoup de bon travail sur ce début de match. 0-0 entre Bastia et Clermont. Attention pour les Bastia de ne pas regretter ce temps fort sans marquer pour le moment.
16h23 sur RMC. On revient dans un instant, bien sûr, pour la suite de ces matchs qui ont débuté à 16h. Un seul but pour l'instant, signé Ristich pour Montpellier face à Strasbourg. On revient dans un instant sur RMC. Restez bien avec nous.
RMC, Intégral Foot.
François Pinet.
Il est 16h26 et ça bouge en Coupe de France. On va tout de suite prendre la direction de Bastia avec Julien Pernichi. Bastia
et Clermont. Le but à Bastia. Et oui, François, les Bastiens qui ont marqué il y a 3 minutes de cela grâce à Benjamin Santé. Il est très très bien lancé en profondeur. Il s'est retrouvé en duel face à Desmas, le gardien clermontois. Et il a réussi à crucifier son adversaire. 1-0 pour les Bastiens. C'est mérité au vu de l'entame de rencontre. Beaucoup d'ambiance ici du côté de Fourienne. Attention, ça repart pour les Bastiens sur le côté droit. Toujours avec Benjamin Santelli. Benjamin Santelli qui arrive dans la surface. Il tente de retrouver Amin Talal. Amin Talal qui temporise. Et ça ne passe pas. Mais en tout cas, les Bastiais, ils sont sur un temps extrêmement fort. Ils ont réussi à le concrétiser. 1-0 pour Bastia contre Clermont Foot grâce à un but de Santelli à la 23e minute.
Elle est pénalty pour Rennes. Ah, pénalty pour Rennes. On y va, Xavier Grimaud. Pas du tout, vous avez
pénalty pour le Stade Rennais, il n'y a pas de problème. Obtenu par Gaëtan Laborde côté gauche de la surface de réparation. Oh, ça arrive, il n'y a pas de problème. Obtenu donc par Gaëtan Laborde qui avait permuté et il est rentré dans la surface. Il allait faire un centre en retrait. Il a été accroché au niveau des jambes. C'est la touche 1, me semble-t-il. On n'a pas du tout réclamé du côté de Nancy. Et c'est Serou Guirassy qui a posé ce ballon. Gaëtan Laborde qui lui a laissé. Et donc l'attaquant, l'ancien Amiénois, qui a l'opportunité de battre pourquoi pas Baptiste Valette et d'ouvrir la marque pour l'essai. On rappelle 28 minutes de jeu ici à Marcel Picot, 0-0, et ça va se passer juste devant les supporters rennais qui ont fait déplacement. Serou Guirassy face à Valette, c'est au-dessus, il envoie son pénalty au-dessus. Serou Guirassy, et là c'est pas 2 ou 3 cm, je pense que c'est un bon mètre au-dessus pour l'attaquant du Stade Rennais. Écoutez, bah ça arrive, mais le suspense reste entier donc entre Nancy et Rennes, toujours 0-0, 29 minutes de jeu, et ce pénalty raté par Serou Guirassy.
La technique pour relancer le joueur là de la part des Rennais, parce que c'est clairement ça, hein, faire tirer le pénalty à Guirassy qui est en mal de but, Kevin, ça n'a pas fonctionné là. Kevin Diaz.
Belle technique en effet, ouais. Belle technique, hein, de relancer Serou Guirassy qui avait déjà raté une énorme occasion, mais il y a deux minutes, même s'il était finalement en position de
hors-jeu,
il était tout seul,
voilà.
Il était tout seul au deuxième poteau, il rate et sa reprise et là. Et là le pénalty, oh, il n'a pas le droit. Je ne sais pas s'il a voulu la mettre au milieu, mais comme tu dis, toi tu dis 1 mètre, Valentin, t'es gentil. 2 mètres au-dessus.
On va aller à Montpellier, ah ouais, parce qu'il y a un très bon coup franc pour Savagnier, j'imagine.
Non cadré pour TJ Savagnier, c'est rare.
C'est pas vrai.
Ouais, il a frappe un peu flottant de TJ Savagnier. Il s'en veut d'ailleurs, TJ Savagnier. On ne sait pas trop ce qu'il a voulu faire. Je pense qu'il a voulu la mettre direct. Frappe non cadré pour TJ Savagnier, pourtant dans une zone qu'il affectionne particulièrement, parce qu'il a souvent deux possibilités, ou la mettre vers largement au premier poteau, ou alors essayer d'aller tromper Matzès en la frappant directement. Cette fois-ci, frappe non cadrée pour TJ Savagnier. Bon, ça lui arrive tellement rarement qu'on lui pardonne évidemment ce petit accro sur ce coup franc. La demi-heure de jeu, toujours 1-0 pour Montpellier grâce à Mihalo Ristić.
J'ai une petite idée, alors c'est pas pour le défendre absolument, mais tu sais qu'en Ligue 1 ce ne sont pas les mêmes ballons qu'en Coupe de France.
Exactement.
Et les ballons de la Coupe de France, c'est ceux de l'équipementier, notamment de l'équipe de France, qui sont un peu plus légers, et je pense c'est une possibilité que TJ Savagnier est plus adapté à la marque qu'il utilise en championnat.
Bon, qui s'entraîne s'il rejoint Clairefontaine bientôt quand même.
C'est pour l'Union Bordeaux d'Aigle, le leader du top 14 qui enfin montre son vrai visage après 28 minutes de jeu. C'est Louis Picamol qui vient fructifier une longue séquence dans le camp Biarro. Ça a duré deux bonnes minutes et à force de pilonner, ils sont arrivés devant la ligne. Il a ramassé ce ballon, Louis Picamol, le King Louis, qui marque le premier essai de ce match. Ça fait 8-3 pour l'UBB face au Biarritz Olympique après bientôt 30 minutes de jeu ici à Chaban.
Merci Romain Asselin. Donc toujours 1-0 pour Montpellier face à Strasbourg. Rennes qui a raté le pénalty face à Nancy, toujours 0-0. Et Bastia, Kevin, Bastia qui mène face à Clermont. Et peut-être qu'il est là, elle est là la surprise.
Mais on l'avait dit, hein, avant le match, que Bastia, ça pouvait vraiment faire partie de ces équipes qui peuvent mettre en difficulté leur adversaire qui évolue à l'échelon supérieur. En plus, à domicile, à Foriani, on sait qu'il y a toujours une belle ambiance. On sait que ça va pas être facile pour l'adversaire de venir s'imposer. Et pour l'instant, ils font un gros match parce que notre ami Julien a raison. Il domine en plus cette première mi-temps.
Julien, justement, Julien Pernici, oui. Est-ce que Clermont s'est réveillé après l'ouverture du score bastiaise?
Pas encore. Les Bastiais qui continuent d'être sur le but clermontois, qui continuent de se projeter de l'avant. Il y a une vraie volonté de la part des joueurs Bastiais, effectivement, d'aggraver la marque. C'est Benjamin Santilli donc qui a marqué sur une belle passe en profondeur longue de la part de Stephen Kemper. Benjamin Santilli, c'est aussi l'homme de la coupe côté Sporting Club de Bastia. Il y a trois saisons de cela, il y avait eu une épopée jusqu'en huitième de finale alors que Sporting Club de Bastia était en National 3, et il avait marqué contre Caen à l'époque, ici du côté de Fouriane. Donc ça veut dire que pour le moment les Bastiais tiennent le match et que les Clermontois, ils sont un peu recroquevillés, je trouve, sur leur camp. Pour une équipe de Ligue 1, on ne s'attendait pas vraiment à ça, mais en tout cas pour le moment les Bastiais contrôlent le match et ils mènent donc 1-0 toujours face à Clermont au bout de 32 minutes de jeu. Il faut le dire, en tout cas cette équipe bastiaise, elle fait du beau boulot pour le moment.
Bon, merci beaucoup Julien. Un autre Julien Richard Bergerac face à Créteil, où on en est Julien?
32 minutes joué à Gaston Simonet, 0-0 entre Bergerac et Créteil, mais vraiment grosse domination du FC Bergerac-Périgord qui monopolise le ballon depuis le début. Alors ils ont mis 5 minutes à rentrer peut-être un peu dans le match, mais depuis vraiment grosse domination et quasiment aucune occasion pour les Cristoliens, et beaucoup de ballons perdus à l'image de cette passe mal assurée au milieu de terrain qui va donner peut-être une solution pour les Bergeracois avec Victor Elissalt et qui va subir une faute. Coup franc pour les Bergeracois, il est lointain, très légèrement à l'intérieur du camp cristolien. 0-0, 32 minutes de jeu ici à Bergerac.
Très bien, on va retourner à Montpellier. Montpellier face à Strasbourg au stade de la Mosson, Julien Landry.
33 minutes, 1-0 pour les Montpellier. Tedy Savagné avec le ballon qui vient de mettre une belle frappe ce coup-ci, contré par un Strasbourgeois. Le corner derrière n'a rien donné, mais les Strasbourgeois qui avaient bien démarré cette partie sur les 5 premières minutes, ils avaient eu beaucoup de situations intéressantes avec notamment Gamero et Diallo, mais depuis quasiment 20 minutes ils ne voient plus le ballon, monopolisé par les Montpellierens, par Ferry, par Savagné, par Chotard au milieu de terrain, et derrière on se projette très vite avec encore une fois Eli Wahi, alors que Tedy Savagné subit un traitement de faveur. Grosse faute encore une fois sur Tedy Savagné qui pour le coup, Kevin, je pense qu'il a eu du mal à se remettre aussi de la première semelle reçue par Djikou, parce que depuis tout à l'heure je le vois un petit peu boitiller, marcher moins rapidement que d'ordinaire, se tourner souvent vers le banc. Je pense que la première semelle prise en tout début de rencontre avec Djikou lui a laissé quelques séquelles. Le coup franc qui joue rapidement avec Tedy Savagné, qui trouve Jordan Ferry, le ballon vers Florent Mollet aux abords de la surface de réparation, il va dédoubler avec Tedy Savagné, finalement Mollet garde le ballon, le centre au premier poteau, et les Strasbourgeois qui vont pouvoir se dégager. 34 minutes à la Mosson, 1-0 pour les Montpellierens.
Assez oui. Vas-y Kevin.
Non, j'allais dire, Julien me parlait de la première semelle. C'est la première semelle du match, mais c'est aussi la première semelle de l'année. Donc oui, c'est toujours plus mal.
C'est vrai.
Ouais. Et puis parfois c'est un peu fait exprès, non?
Oui, ah, bien sûr. On l'a tous fait, hein, bien sûr, le meilleur joueur de l'équipe adverse. Si tu peux lui montrer un peu d'agressivité dans les 15 premières minutes, forcément, alors faut peut-être pas le dire à la radio, mais oui, ça se fait.
Ça
se fait.
Toi, ça te gêne pas de le dire à la radio. C'est moche.
Non,
c'est
bah, moche, écoute, Kevin. Écoute, je l'ai
fait. Non, mais c'est un trahir le secret. Quand j'avais fait le sujet avec les analystes vidéo lors du match contre Nantes, ils avaient très clairement annoncé que Palois ou Giroto allaient mettre une grosse semelle à Tedy Savagné sur les 5 premières minutes. Et ça n'a pas manqué. Après 10 minutes, il avait pris une énorme semelle par Giroto pour lui faire comprendre que voilà, il allait passer peut-être une mauvaise soirée. Bon, finalement les Montpellierens s'étaient imposés, mais oui, les équipes cibles, comme le dit Kevin, même s'il annonce peut-être pas officiellement, mais oui, Tedy Savagné subit forcément depuis quelques matchs déjà un traitement de faveur de la part des adversaires.
Donc là c'était Djikou qui va partir à la Coupe d'Afrique des Nations, hein, d'ailleurs, comme Diallo côté strasbourgeois. C'est leur dernier match du mois, en tout cas avec leur club de Strasbourg. On va aller à Nancy au stade Marcel Picot, Valentin Jamin, Nancy face à Rennes. Rennes qui a donc raté un pénalty. Hein.
Ouais, 35 minutes de jeu, en effet, 0-0, et Serou Guirassy à la 28e qui envoie sa tentative au-dessus du cadre, largement au-dessus. Plenac s'était frappé en force, ça a été manqué par l'attaquant qui a mis 4 buts toutes compétitions confondues cette saison, mais en effet, qui joue moins ces derniers temps. Et derrière, deux grosses situations coup sur coup pour les Rennais, encore une fois avec un gros travail de Doku côté droit, le centre en retrait, la reprise de Flavien Tepp, plat du pied sauvé sur la ligne par un défenseur nancéen. Et derrière, c'est Jonas Martin qui reprend de façon peu académique, et c'est sauvé de façon également peu académique par le gardien Baptiste Valette qui a sauté jambes écartées, bras écartés, mais voilà, ça a fait le travail. Mais on sent très bien que Doku là, qui revient de blessure, il a joué que 8 matchs hein, cette saison, il en a raté 19, et bien dès qu'il accélère, il a en tout cas pas perdu ses jambes de feu, parce que sur deux appuis il avait mis son vis-à-vis dans le vent, la qualité technique pour mettre un centre parfait en retrait au niveau du point de pénalty pour Jérémy Doku, donc le très vif ailier belge de 19 ans. Mais bon, Rennes est un peu mieux, ça manque quand même de tranchant dans les derniers mètres pour ce premier match de l'année. 36 minutes de jeu, 0-0 ici à Marcel Picot entre Nancy et Rennes.
Il va être important Doku, Kevin, puisque Souleymana va quitter Rennes pour la Coupe d'Afrique des Nations, et c'est important d'avoir un joueur comme ça explosif sur les côtés.
Bah, il est exceptionnel hein, lorsqu'il va retrouver son rythme. On l'a découvert en France, même si en Belgique son nom quand même tournait énormément dans ce championnat belge qui a souvent de bons talents. Rennes a su aller le chercher, et bien sûr qu'il va rentrer dans cette concurrence, mais attention parce qu'il va pas être titulaire indiscutable hein, même au début de la saison, même en l'absence de Souleymana, parce qu'il y a un Martin Terrier notamment qui est très très bon depuis le début de cette saison.
Et tiens Valentin, puisque tu nous as parlé en début de match d'Alemdar, Dogan Alemdar, le troisième gardien rennais qui remplace du coup Gomis et Salin, comment il est là? Est-ce qu'on a pu apercevoir ses qualités?
Oui, oui, effectivement, il a sorti une belle frappe tout à l'heure de Alainaoui, le milieu de terrain nancéen qui avait récupéré un ballon à l'entrée de la surface de réparation. Voilà, il s'est bien couché, il l'a sorti, pas dans l'axe mais sur un côté. En tout début de match, il a également été sollicité sur un centre qu'il a parfaitement capté. Jeu au pied propre pour l'instant. Alors, je vais pas vous dire que voilà, c'est le grand gardien du futur, mais pour l'instant, il fait son match. Le jeune Dogan Alemdar, turc de 19 ans international, qui a été signé cet été contre 3,5 millions d'euros. Et je peux vous dire que pour avoir regardé un peu sur les réseaux sociaux, les supporters rennais étaient impatients de le voir parce que voilà, c'est un gardien qu'on a vendu comme vraiment une promesse pour le futur.
Lyon Bordeaux-Bègles et François Trindeux qui vient ajuster, il était face au perche certes, mais il était loin à une quarantaine de mètres et ça fait 3 points de plus pour l'Union Bordeaux-Bègles qui, après avoir marqué un essai tout à l'heure, se détache un petit peu à la 35e. Le score 13 pour l'UBB et 3 pour le Biarritz Olympique.
Grassi, le sauvetage encore une fois de Baptiste Vallette à bout portant sur sa ligne après une remise de Jérémy Doku. Quelle occasion pour le Stade Rennais, cette remise de Doku. C'est Rougirassi derrière, un petit peu en déséquilibre, qui frappe fort dans les 6 mètres. C'est sur Baptiste Vallette qui arrive à dégager ce ballon. Grosse occasion pour Rennes face à Nancy, 0-0, 38e.
Bel arrêt ou raté de Grassi, doit faire mieux, Kevin?
Bah, je pense qu'on peut dire qu'il doit faire mieux au vu de son début de match. Maintenant, bien sûr, le gardien, il fait aussi le geste juste. Ça fait partie du jeu. Mais j'ai envie que Guirassy marque parce que ça va lui faire vraiment du bien.
Ouais, c'est typiquement le cas de l'attaquant en mal de confiance, en mal de but, hein, bah, tout simplement.
Le problème, il rate pas son geste, mais il tire sur le gardien. Donc en fait, après, il est en déséquilibre, c'est pas si facile. On va dire que non, c'est quand même un bel arrêt du gardien qui a bien lu la trajectoire de ce ballon, même à bout portant.
La route vers l'exploit pour l'instant pour Bastia. Alors on parle d'exploit, oui, parce que Bastia est tellement mal en Ligue 2 que pour l'instant, Bastia qui mène face à une équipe de Ligue 1, c'est un exploit, Julien.
Alors oui, c'est un exploit. 39e minute de jeu, un but à zéro pour le Sporting Club de Bastia face à Clermont. Alors oui, le Sporting Club de Bastia au classement est 18e, mais dans le jeu, depuis l'arrivée de Régis Boire, il y a eu du mieux quand même. Certes, le Sporting Club de Bastia sur ces deux derniers matchs de championnat n'a pas été au mieux, mais il y a vraiment du mieux depuis l'arrivée de Régis Boire. C'est une équipe qui a le potentiel
pour gagner. Oh, Guirassy, quelle raté énorme encore une fois pour Guirassy. Contrôle en porte-manteau est superbe au niveau des 6 mètres. Ça lui permet d'éliminer son vis-à-vis et derrière la demi-volée plat du pied au-dessus, il est à 5 mètres de la ligne, c'est incroyable messieurs, la confiance comme ça peut jouer, parce que là c'est pas une question de rebond et il la rate, pourtant il fait un contrôle sublime, hein, Kevin, et derrière il rate le cadre, toujours 0-0 entre Rennes et Nancy, énorme occasion ratée par Serou Guirassy.
Bon bah clairement il n'est pas en confiance, clairement il manque de réussite et j'ai envie de dire c'est triste parce que celui-là il est encore une fois énorme, il fait un contrôle exceptionnel et derrière comment il peut rater ça. Bon alors il rate du pied gauche, hein, c'est ce que tu n'as pas dit Valentin, mais quand même il est à 5 mètres du but, le gardien est au sol à 5 mètres du but, il a juste à cadrer et il y a but, et malheureusement pour lui je crois qu'il prend ce ballon un peu du tibia et ça finit au-dessus.
Je crois qu'on va suivre le match de Guirassy. Ouais, c'est parce que ça va être
il prend le ballon du tibia, messieurs, quand même.
Oui, bien sûr.
Voilà, il rate son geste, quoi.
Il rate complètement son geste. Incroyable. Mais normalement, incroyable. Ça faisait, avec le pénalty raté, cet énorme raté devant le but, ça fait beaucoup pour Guirassy. Je pense que Bruno Genesio va forcément insister. Là, il faut insister avec lui. Il ne faut pas le sortir à la mi-temps, évidemment.
Je ne sais pas si tu as vu cet arrêt sur image sur son visage, le pauvre là il est pas bien.
Ouais, il est pas bien du tout. Et ça fait toujours 0-0 entre Nancy et Rennes. Pour Bastia face à Clermont, tu disais, Julien Pernici, que Bastia jouait mieux depuis l'arrivée de Régis Brouard et ça se confirme sur cette rencontre de Coupe de France.
Oui, très clairement, malgré le nombre d'absents, malgré le passage à une tactique à 4 défenseurs, qui n'est pas forcément celle que Régis Brouard a mis en place depuis son arrivée en raison de tous ses absents, elle montre beaucoup de bonnes qualités effectivement face à cette équipe de Clermont Foot. Même depuis le but, les Clermontois, ils n'ont pas réussi à sortir la tête de l'eau pour le moment. Ils se font souvent prendre sur le même type d'action. C'est-à-dire que les Bastia arrivent à sauter des lignes avec des ballons un peu longs. Ils arrivent à prendre à revers cette défense de Clermont, qui pour le moment n'est pas forcément bien. Je pense qu'à la mi-temps, Pascal Gastien va passer une soufflante à ses joueurs, parce que pour le moment, ils sont en difficulté face à Bastia. Toujours un but à zéro pour Bastia contre Clermont-Gaud de 41 minutes de jeu.
Toujours match nul entre Bergerac et Créteil, Julien Richard.
Oui, toujours 0-0, on est à 4 minutes maintenant, un peu moins de la mi-temps, mais il y aura des arrêts de jeu parce que le jeu justement est stoppé. Il y a un joueur cristolien qui est au sol depuis un petit moment, qui va être évacué sur civière. J'ai pas identifié de qui il s'agissait et où se situe la blessure. C'était au milieu de terrain. L'arbitre a laissé jouer l'action et finalement il est revenu à la faute. Ça semblait une faute plutôt anodine, mais le joueur de Créteil est évacué. Vous entendez sous les applaudissements ici du stade à Bergerac. Je vous dis ça, je vous dis de qui il s'agit dans quelques instants. Carton jaune au passage pour le capitaine Bergerac, auteur de la faute, Damien Fachan. 0 à 0 donc, 42 minutes de jeu, mais il y aura un peu de temps additionnel dans cette première période.
Et ça bouge en rugby, l'UBB contre Biarritz, Romain Asselin.
Avec une nouvelle pénalité pour le Biarritz Olympique, Ilian Perrault qui s'était troué il y a de cela 10 minutes et là qui était face au Perche, qui rajoute 3 points pour Biarritz. Ça fait 13 à 6 désormais pour l'UBB, mais franchement que c'est difficile pour le leader du top 14. Et s'il regagne les vestiaires à la pause avec ce score, ce qui va être le cas dans quelques instants, puisqu'il reste une minute à jouer, ce sera plutôt bien payé. 13-6 pour Bordeaux à la 40e minute.
Tiens, j'avais une question pour toi de Fatat Fury sur l'appli RMC Direct Studio. Chabandelma, c'est plein cet après-midi?
Plein, pas plein, mais on est autour de 25, ce qui est déjà énorme. Hein.
On est d'accord que à bientôt, ça sera le retour de la jauge et qu'il n'y a pas eu de dérogation. C'est juste que ce n'est pas encore appliqué, les jauges.
Exactement.
C'est pour
exactement.
Ça. Voilà,
ouais,
c'est
non, la question. On sera à 5000 à partir de demain.
Voilà, et voilà, Fatat Fury, tu as ta réponse. Merci beaucoup, Romain. On retourne à Montpellier. Montpellier contre Strasbourg. Toujours 1-0 pour les Montpelliérains, hein, Julien Landry.
Ouais, encore 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Les Montpelliérains qui gèrent tranquillement, en tout cas pour le moment, ce petit but d'avance. Dimitri Berthaud qui n'a plus grand-chose à faire depuis les premières minutes où les Strasbourgeois avaient été dangereux. Et on parlait tout à l'heure en début de rencontre du chantier réussi par Olivier Dalloglio. Kevin parlait de Mamadou Sakho et que les Montpelliérains ont été cherchés. Je me rappelle de ce premier match finalement contre Strasbourg où Sakho, c'était l'un de ses premiers matchs, il avait été en souffrance toute la partie contre Gamero par sa vitesse. Et bien cet après-midi il met au supplice Diallo, Ajor, qui sont pour le moment des joueurs costauds physiques, mais Mamadou Sakho, il a complètement changé en 3 mois, il est physiquement redevenu un joueur très solide et il est très impressionnant en défense. On l'a vu depuis le début de la partie, il est en train de réaliser encore une fois une grosse partie. 1 minute 30 à jouer à la Mosson, 1-0 pour les Montpellier.
Rennes qui pour l'instant a raté des énormes occasions contre Nancy. Est-ce que ça va coûter cher, Valentin Jamain?
Oui, pour l'instant toujours 0-0, 44e minute de jeu et un joueur là nancéen est touché à la tête, c'est là touchant me semble-t-il sur un duel. Le jeu qui est donc arrêté, on a sorti le ballon et ouais, c'est dur pour les Rennais, probablement dans la tête d'un Rennais, Serou Guirassy, qui a raté un pénalty et de grosses situations et donc pour l'instant ils ont des occasions mais le score est toujours de 0-0. La domination elle est claire, ils sont bien rentrés dans cette partie. On rappelle qu'ils sont décimés par le Covid, même si l'équipe alignée est très intéressante pour le 11 qui est sur le terrain, mais pour l'instant la frustration probablement chez Bruno Genesio puisque son équipe a beaucoup raté. 0-0 45e.
Mi-temps pénalty pour Strasbourg. Biarritz, Romain Asselin, le score.
Mi-temps 13 à 6 pour l'UBB qui vient de vendanger une dernière occasion d'essai là avec Cordero qui a fait n'importe quoi alors qu'il y avait un contre un à 5 mètres de la ligne. 13-6 pour Bordeaux.
Allez, on va à la Mosson. Pénalty pour Strasbourg, Julien Landry.
Ouais, toujours très partagé sur ces pénaltys sifflés. Kevin Gamero à l'entrée de la surface de réparation qui frappe. Nicolas Kozza qui se retourne. Kevin avec les bras, je sais pas où il peut les mettre, les bras. Et le ballon qui vient heurter un petit peu le coude de Nicolas Kozza et monsieur Delerue qui n'a pas hésité, qui a accordé le pénalty aux Strasbourgeois pour Habib Diallo qui peut donc permettre aux Strasbourgeois d'égaliser juste à la 45e alors qu'il y avait une minute de temps additionnel que les Montpellierains semblaient gérer tranquillement. Diallo face à Berthaud et à l'image de Guirassy, ça passe au-dessus de la barre transversale, le pied droit ouvert de Diallo et ça passe bien au-dessus. Alors c'est peut-être les ballons, hein, Kevin, c'est peut-être les ballons de la fédération, il faudra en parler aussi, hein. Mais là Diallo il a pris tout son temps et c'est passé largement au-dessus de la cage de Dimitri Berthaud. On en reste donc à 1-0 pour les Montpellierains.
Alors juste pour revenir sur le pénalty, bah le problème c'est que c'est son deuxième bras en fait, c'est celui qui est le plus loin du ballon et celui-là il faut essayer de l'enlever parce que le ballon il va droit vers le but, c'est compliqué pour l'arbitre de ne pas siffler. Et quant au pénalty, il a le corps un peu en arrière, il a pas très bien placé son ballon, je trouve, il n'était pas vraiment sur le point et derrière le ballon qui monte encore une fois très très haut. Alors c'est peut-être les ballons, hein, peut-être.
Oui, bien sûr, c'est peut-être les pieds aussi parce que le truc c'est comme avec.
Ah, j'aimerais bien t'y voir, toi, François.
Ah bah non, mais moi je suis pas professionnel, hein, mais bon, ouais, si je m'entraîne.
Il y a pas que des professionnels en Coupe de France.
Mi-temps à Bastia, Bastia Clermont, Julien Pernucci.
Pas encore, faux départ, excusez-moi. Mais toujours un but à zéro.
Mi-temps à Montpellier, en revanche, Julien Landry.
Oui, pas de faux départ, 1-0 pour les Montpellierens. Ouverture du score de Ristich à la 5e, à la 20e et à la 45e. À l'instant, Diallo qui a envoyé le ballon dans le ciel de la Mosson. On en reste donc à 1-0 pour les Montpellier.
Parce que celui-là aussi, hein, il est à 2 mètres de la barre. Hein.
Oui,
largement. Il pas juste normalement, à Strasbourg, Kevin, c'est Ajor qui tire les pénalties.
Ou Gamero.
Et là, il le donne à Diallo parce qu'il va partir à la Coupe d'Afrique des Nations, j'en suis sûr que c'est un truc comme ça.
Non mais je crois qu'il a tiré un pénalty aussi.
Après il tirait les pénaltys, bien sûr, Diallo, bien sûr, il doit normalement le marquer, mais bon. J'ai l'impression que c'est un peu des pénalties qu'on veut offrir comme ça, comme à Guirassy tout à l'heure, pour le remettre.
Moi, j'offrais rien
du confiance.
Tout.
Bah oui, toi, tu prends pénalty, tout. Toi.
C'était pour moi.
Toi, t'es un croqueur, évidemment. T'es un croqueur, je le sais.
Par contre, ça finissait au fond.
C'est pas terminé entre Nancy et Rennes, bien sûr, cette première période, Valentin Jamin.
Il reste encore 30 secondes dans ce temps additionnel. Le ballon en possession des Nancy, 1-0. On le rappelle, entre Nancy et Rennes, ça fait longtemps que Nancy n'avait pas attaqué côté gauche. Ce centre repoussé par une tête, ça va revenir. La reprise, elle est complètement déchirée. Il n'a même pas touché le ballon, le milieu de terrain de Valle. Et
cette
derrière,
fois, c'est Gaëtan Laborde
qui va pouvoir écarter côté gauche et mi-temps également à Nancy. 0-0 entre Nancy et Rennes, malgré la grosse domination rennaise.
Et malgré le pénalty raté de Guirassy, mi-temps à Bastia. Allez, Julia Pernici.
Oui, voilà, un but à 0 toujours pour Bastia face à Clermont Foot. But de Santé à la 25e minute et pour le moment effectivement les Bastiais dominent ce match face à des Clermontois qui ont beaucoup de mal défensivement, qui se font prendre toujours de la même façon. Il va falloir vraiment beaucoup de rectifications de la part des joueurs de Clermont pour espérer revenir au score, parce que les Bastiais pour le moment ils font une très belle partie ici du côté de Furiani.
Merci beaucoup, à tout à l'heure pour la deuxième période. Julien Richard cette fois avec, ouais, Bergerac Créteil. Est-ce que c'est la mi-temps?
C'est la mi-temps, 0-0. Il y a eu un petit peu de temps additionnel. C'est la blessure d'Alexis Arroyo, hein, qui est sorti sur blessure à la toute fin de cette première période. Ça a l'air sérieux. Il est sorti sur civière, il avait une minerve et puis il avait un gros bandage, enfin une attelle en tout cas, la cheville gauche. On essaiera d'en savoir un peu plus sur la blessure du Cristal. Il y a en tout cas 0-0, domination bergeracoise, mais pas de but dans cette première mi-temps ici au stade Gaston Simonet de Bergerac.
Merci beaucoup Julien, à tout à l'heure. On va parier tout de suite sur Montpellier-Strasbourg.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec toujours Johan Guillet de la rédaction des paris RMC. Toujours 1-0 donc pour Montpellier, avec ce pénalty raté de Strasbourg. Ça, évidemment, ça ne change rien au niveau des cotes. Où on en est maintenant?
1,44 la victoire Montpellier-Rennes, 3,15 le match nul, 5,60 la victoire des Alsaciens. Kevin, on l'avait presque, hein, notre les deux équipes marquent. On était à ça de l'avoir.
Bon. C'est pas fini encore.
Non, c'est pas fini. Et d'ailleurs, je vous propose moi de miser sur un score exact, sur le score de 2-1 pour Montpellier. C'est coté à 5,90.
Moi, je vais rester sur le match nul avec donc le but de Montpellier dans cette deuxième mi-temps.
Le but de Strasbourg, donc 1 partout.
Le but de Strasbourg dans cette deuxième mi-temps, pardon.
1 partout. Le 1 partout, ouais, est coté à 4 et Strasbourg qui marque le prochain but est coté à 2.
Voilà, merci beaucoup Johan. D'autres paris à retrouver sur rmcsport.fr.
Max, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Alors, on a vu deux pénaltys ratés, notamment celui de Guirassy, puis l'énorme raté de Guirassy. Là, t'es Guirassy à la mi-temps, là, dans le stade Marcel Picot. Il y a 0-0 et tu viens de faire deux énormes ratés. Comment tu te sens?
Bah écoute, je prends mes affaires et je rentre chez moi. Non, mais après, il faut avoir la mentalité du sportif de haut niveau. C'est-à-dire qu'il faut arriver, c'est pas facile, hein, mais il faut arriver en tant qu'avant-centre à mettre les occasions ratées de côté et repartir pour la deuxième mi-temps non pas en oubliant, mais en tout cas en prenant cette énergie négative et en essayant de la transformer en positif.
En tout cas, il y a 0-0 entre Nancy et Rennes. 1-0 pour Bastia face à Clermont. Et pour l'instant, les Bastiais ont l'air de tenir véritablement face à Clermont, de ne pas être trop inquiétés.
Oui, il va falloir qu'il y ait quand même une réaction de cette équipe clermontoise qui, moi en tout cas, j'ai fait partie de ceux qui leur ont fait beaucoup de compliments dans les premiers mois, dans les premières semaines plutôt, mais c'est vrai que depuis ils sont quand même en difficulté et une élimination comme ça prématurée en Coupe de France face à une équipe déjà en difficulté en Ligue 2 comme Bastia, ça pourrait être un nouveau signal négatif pour cette équipe.
Alors 0-0 toujours entre Bergerac et Créteil, mais peut-être que Bergerac, tu le disais, hein, on parle beaucoup d'amateurs alors que ce ne sont pas vraiment des amateurs, hein, ils vivent du football pour la plupart des joueurs de Bergerac qui avaient réalisé l'exploit contre Metz au tour précédent. Là pour l'instant il y a 0-0 contre l'équipe de National Créteil, tout est ouvert dans cette partie également et on verra si Bergerac peut se qualifier pour les huitièmes de finale. Et puis Montpellier qui mène 1-0 avec un très très joli but de Ristich, qui est vraiment un très beau but, hein, pour ce début de multi de cet après-midi.
Ouais, très très belle frappe, hein, vraiment, qui a surpris tout le monde, notamment Matsels, qui est un des meilleurs gardiens depuis le début de cette saison, mais une belle frappe au premier poteau. Cette équipe de Montpellier qui a plutôt dominé la première période, mais qui s'est fait surprendre en toute fin avec ce penalty et le penalty qui est raté. Mais je vois quand même une deuxième mi-temps encore une fois équilibrée, et je pense vraiment que Strasbourg peut marquer dans ce match.
Avec les 3-2 devant là, hein, quand même, c'est osé, c'est un pari. Gamero, Ajorc et Diallo.
Moi j'aime beaucoup. Après, il faut voir comment les trois sont. On avait l'impression que Gamero, on va dire, se sacrifie un peu en allant au milieu de terrain et en étant un peu au soutien des deux autres. Mais on ne peut pas vraiment dire qu'en tout cas, en termes de productivité, ça ait marché dans cette première mi-temps.
Ouais, en tout cas, tout est ouvert pour ces quatre matchs de 16h. Je vous rappelle également, donc, si vous nous rejoignez, la qualification pour les huitièmes de finale de Toulouse qui s'est imposé 1-0 à Cannes. Brest a battu Bordeaux, ou en tout cas les jeunes de Bordeaux, 3-0. Et puis Nantes s'est imposé face à Vitré, 2-0 pour valider son ticket pour les huitièmes de finale. Enfin, Versailles continue son parcours étonnant. Versailles, club de National 2, qui a battu la Roche-Vendée 4-0. La suite du programme, ça sera dans un instant avec Nicolas Paolorsi. Juste un petit mot également du foot en Europe, avec la défaite du Real Madrid 1-0, battu de façon assez surprenante par Retafe 1-0, alors que Benzema était titulaire. Pour l'instant, l'Atlético de Madrid mène face à Vallecano 1-0. Et puis en Angleterre, c'est presque la fin des rencontres de cette journée, avec Leeds qui mène 3-1 face à Burnley, Brighton mène à Everton 3-2, et puis Brentford qui mène face à Aston Villa 2-1. Dans un instant, à 17h30, il y aura un Chelsea-Liverpool magnifique, Kevin. On t'a pas entendu d'ailleurs, Lukaku n'est pas dans le groupe, hein, tu sais, après ses déclarations un peu fracassantes. Tourelle l'a puni, il l'a pas mis dans le groupe pour ce match.
Écoute, on sait que aujourd'hui, quand tu es un entraîneur de haut niveau, tu dois gérer pas mal de choses, notamment la communication de tes stars, de tes grands joueurs. Et je pense que Thomas Tuchel a eu raison de taper du poing sur la table, parce que le plus important, c'est l'équipe.
Ça sera à 17h30, ça, cette rencontre que l'on va suivre, bien sûr, sur RMC, avec Nicolas Paolorsi qui est avec nous.
Salut Nico, les gars.
L'excellent Nicolas Paolorsi.
Merci. Salut Nico.
Salut Nico.
On te présente comme ça.
Ah oui, je sais. Ah oui, mais c'est dans ton contrat, donc j'ai pas le choix. Je suis obligé de dire ça. Avec un super programme à suivre, bien sûr, en Coupe de France, du rugby, enfin, plein de choses.
Bien évidemment, la deuxième mi-temps de tous les matchs que vous avez eu, mais bien sûr à 18h30, Quevilly contre Monaco, avec des histoires de coach dans les deux camps. Vous allez voir ça. Linas Montlhéry, un club de N3 qui accueille Amiens, Jura Sud face à Saint-Etienne, Thaon-les-Vosges face à Reims. Et puis à 18h, il y aura un match de top 14 également, un match très intéressant avec Wilfried Templier, puisque Castres accueille La Rochelle. Bref, il y a plein de bonnes choses dans l'Intégral Sport avec Coach Courbis. Vous restez avec nous.
RMC Intégral Foot, Coupe de France.